Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il est connu pour son esprit libre, son franc-parler et ses actions parfois choc en faveur des animaux, de leur respect et de leur bien-être. Depuis son enfance, leur sort est sa préoccupation première et ses vies ont toujours été vouées à mieux faire connaître la richesse du monde animal et à nous sensibiliser au devenir de la planète et de la vie sur Terre. Bête noire des chasseurs, poil à gratter des écocideurs, ami des bêtes devenu un exemple pour nombre de jeunes, il continue de marcher inlassablement, comme lui avait conseillé son ami Théodore Monod avant de mourir. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La voix est libre aujourd'hui avec vous. Vous êtes président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Du COS, mais enfin bon.
Du COS, d'accord. Oui. Journaliste, producteur, réalisateur de télévision, auteur de livres aussi, notamment Il faut continuer de marcher, livre paru aux éditions de La Martinière, et puis le dernier sorti, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, édité aux éditions Les Échappées. Et avec vous, dans cette émission, en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, émission préparée par Anaï Morales avec Anne Gouzon, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jacques Hubert, eh bien nous allons plonger dans vos combats, vos doutes, vos rêves. Bonjour à tous et bienvenue.
Je connais beaucoup de jeunes gens qui ont été empêchés de suivre des carrières d'histoire naturelle par insuffisance de mathématiques.
C'est le droit d'être aussi... seulement naturaliste.
Voilà. Je ne peux pas vous dire combien j'ai reçu de lettres de jeunes gens me disant « Nous avons la passion de la nature, notre vie, notre rêve serait de passer notre vie à observer les insectes, à étudier les plantes, et nous ne le pouvons pas parce que nous ne sommes pas très bons élèves, et en particulier en mathématiques. » Ça me fait de la peine pour eux, d'abord, parce que c'est toujours pénible de ne pas pouvoir suivre sa voie. Puis je le regrette aussi pour les sciences naturelles, car je pense qu'ils auraient pu apporter quelque chose d'original. Je trouve qu'on n'utilise pas assez ces facultés naturelles qui sont souvent liées à l'amour direct de la nature. Curiosité, mais aussi amour.
Alain Bougrain-Dubourg, vous avez reconnu la voix d'emblée.
Ah, c'est extrêmement émouvant, Jean Rostand.
Exact. Jean Rostand qui s'exprimait alors le 30 juin 1973 dans l'émission de télévision Un certain regard, un homme qui a plus que compté pour vous.
Oui, parce que j'étais un petit sauvage qui débarquait de l'île de Ré, en fait, et du pensionnat de La Rochelle. Et j'arrive à Paris, j'ai une vingtaine d'années, et on me propose de rencontrer Jean Rostand. Pour être très franc, je ne savais pas trop qui il était. Mais j'étais curieux de nature et on me dit que c'est quelqu'un de très important. Donc voilà, un académicien quand même. Et il accepte de me recevoir. D'abord, il m'appelait monsieur, ce qui pour le gamin que j'étais était quand même très impressionnant. Et sa petite moustache blanche, sa pipe, etc. Il me dit, mais comment vous intéressez à des animaux quand même aussi difficiles que les serpents? Et moi, je plaide pour les ophidiens. Je lui dis, mais maître... Et j'avais oublié que c'était un grand spécialiste des serpents et évidemment des grenouilles. Et il a dit à la jeune fille qui m'avait amené, il pourra revenir quand il voudra. Donc 3 semaines après, j'étais à nouveau à Ville-d'Avray, chez lui. Et là, il me présente en disant, je vous présente Alain Bougrain-Dubourg, c'est un naturaliste en herbe. Et j'avais pris un peu d'assurance et je lui réponds, non maître, en herpétologie. Je savais pas ce que ça voulait dire, en herbe. Et Jean Rostand a été admirable. Jusqu'à son dernier souffle, il m'a encouragé, il m'a accompagné, il m'a présenté à Marcel Bluchstein-Blanchet, qui avait créé la Fondation de la Vocation. J'ai été lauréat de la Fondation, grâce à lui, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'avais bac moins un.
Oui, parce qu'il savait qu'on pouvait être autodidacte, ouais. Avoir bac moins un, comme vous dites, ouais. Mais être curieux, être amoureux de cette nature et devenir un formidable professionnel.
C'était le pari de confiance. Là, j'ai 70 ans, je constate qu'il s'est pas trompé, quoi, parce que j'ai fait de ma passion un métier. Et aujourd'hui, à la Fondation de la Vocation, je le remplace. Bluchstein-Blanchet, à sa mort, a souhaité que je le remplace, et je le fais aux côtés d'Elisabeth Badinter. Et c'est tellement merveilleux que de passer le relais et d'encourager les vocations.
C'est vrai que quand on prononce votre nom, Alain Bougrat-Dubourg, on a tendance à penser uniquement oiseaux. Vous, les reptiles, ont vraiment suscité votre fascination tout petit. Vous parliez de l'île de Ré, de La Rochelle. Il faut préciser donc que votre enfance, vous la passez entre Paris, où vivent vos parents et, ouais, et frères et sœurs, l'île de Ré, où il y a une maison de famille, et puis La Rochelle, parce que c'était ouais, le lycée Eugène Fromentin, où votre père vous envoie pour essayer de faire quelque chose de vous.
Bah oui, parce que je dois dire que je suis né du bon côté du trottoir. Bon, les résultats scolaires n'étant pas au rendez-vous, il m'a envoyé en pension en disant bah, « au moins tu verras ce que c'est que d'être un fils de marin-pêcheur et ça va t'apprendre la vie ». Je pars en pension à l'âge de 10 ans. Bon, c'est pas le 19e siècle en Angleterre, mais enfin c'est quand même pas tendre. Et je me suis réfugié finalement au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, qui était voisin du lycée. Et c'est là que je m'épanouissais. Et surtout, je vagabondais dans les rêves d'au-delà de l'horizon. Je voyais un squelette de dauphin. Pour moi, c'était les dauphins qui plongeaient dans les eaux du Pacifique. Un ours blanc figé, bah, je le voyais courir sur la banquise. Dieu sait quoi encore. Et ça a été un rêve d'enfance. Il y avait la girafe offerte par le Pacha d'Égypte à la France, celle qui était arrivée la première en France, qui avait traversé de Marseille jusqu'à Paris, et qui est empaillée, qui est à La Rochelle. Et donc, tout ça a invité au rêve. Et les préparateurs du muséum ont eu la gentillesse de me prendre sous leur aile pour m'initier à la taxidermie, à l'herpétologie, notamment à la capture des serpents, au bagage des oiseaux dans le marais Poitevin, etc. Enfin,
que donc c'est... il faut rendre hommage à François Chanudet, déjà, qui était chargé oui, de la muséologie au Muséum fait, de La Rochelle, qui vous prend vraiment sous son aile. Oui. Et puis Monsieur Duguy, c'est ça, qui dirigeait
le
muséum.
Oui, docteur Duguy, qui était un grand spécialiste des serpents. Et c'est pour ça que, dans son ombre, j'ai été chercher des vipères et des couleuvres pour ses travaux. Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment, Alain Bougrat-Dubourg, que ces lieux aujourd'hui, ces muséums, ces lieux de recherche, remplissent toujours ce rôle auprès des plus jeunes ?
Beaucoup plus. Beaucoup plus parce que les scientifiques sont sortis de leur laboratoire. Et je leur rends hommage parce que ça n'a pas été facile. Vous savez, la recherche est un peu comme la grande muette, l'armée. On a un devoir de réserve. D'abord parce qu'on appartient à des grandes institutions, le Muséum d'Histoire Naturelle, le CNRS, tous ces établissements publics. Et on ne peut pas s'exprimer comme ça à la légère. Mais on voit qu'il y a eu une évolution et que les directions de ces établissements publics ont fait confiance à la compétence, au sens des réalités. On peut pas dire que les scientifiques soient lâchés dans la nature pour être des donneurs d'alerte, mais ils sortent du labo, ils sont en proximité avec la société. Les sciences participatives, du reste, nous invitent à tendre la main au savoir, au sachant, et ça, c'est formidable. Ça crée aussi des vocations, ça crée des animations de terrain, ça crée un tissu de sagesse et de savoir en France. Quel bonheur.
Et des échanges.
On est les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck et tant d'autres, il faut pas l'oublier, les meilleurs.
Et on peut citer Viginature, justement, oui, Viginature, de muséum, le Spipol, enfin voilà, l'occasion pour les amoureux de la nature de prendre leur part aussi, de devenir des apprentis chercheurs,
voilà,
mais surtout
de participer à la recherche, des aides, voilà.
Vous citez parfois dans vos écrits, Alain Bougrat-Dubourg, Saint-Augustin, on perd moins à se perdre dans sa passion
qu'à perdre sa passion. Et oui, parce qu'on est toujours habité de doutes. Surtout que moi, j'ai eu une activité qui n'est pas un métier, en fait. J'ai été tour à tour, par le hasard de la vie, journaliste, producteur, conférencier, auteur, enfin je ne sais quoi. J'ai un peu tout fait, président d'association, etc. Et il y a des moments où on doute, bien évidemment. On doute simplement dans le combat. Combien d'échecs ? Voyez, aujourd'hui, on a le sentiment que les victoires sont quand on a endigué une agression à l'égard de la nature. Alors qu'hier, il y a 3 décennies, les victoires, c'est quand on avait le retour du castor, quand les cigognes passaient de moins de 10 couples, les cigognes blanches, à plus de 2000 aujourd'hui. Ça, c'était des victoires. Aujourd'hui, on a empêché une connerie, une violence, une dégradation à l'égard du vivant. Alors, je peux vous dire que c'est frustrant.
Vous aviez à cette époque-là le sentiment que l'on pouvait encore agir vite, rétrospectivement. Mmh. Vous diriez que c'était une douce illusion. Je vous laisse répondre à cette question juste après ce document sonore que je vais vous faire écouter. C'est un extrait de 5 colonnes à la une, daté du 5 janvier 1962. Étaient présents sur le plateau Brigitte Bardot et Jean-Paul Steiger.
Ah, ouais. Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre. Jean-Paul est le fondateur d'un club, qui est le club du jeune ami des animaux. Il a fondé ce club pour apprendre aux enfants à aimer les bêtes. Et lui aussi s'occupe des histoires d'abattoirs et de la façon dont on tue les bêtes. Jean-Paul est allé travailler aux abattoirs pour pouvoir en parler mieux.
J'avais comme travail de balayer le sang vers les canaux d'écoulement. Il y a de l'eau qui coule, il y a un baquet qui se remplit et qui se vide au fur et à mesure. Alors j'avais pour mission de balayer le sang sous les veaux. Et moi je gardais ma montre parce que je voulais justement chronométrer la durée où le veau était encore vivant pendant que son sang s'écoulait.
La durée de l'agonie.
C'est ça, la durée de l'agonie du veau. Alors, pour ça, j'approchais mon balai des têtes. Je chronométrais toujours. Au bout de 4 minutes, le veau avait encore le réflexe, quand j'approchais mon balai, de fermer l'œil, et non seulement de fermer l'œil, mais de pousser sa tête, enfin d'essayer de s'éloigner du balai.
Il y avait des propos terribles, Alain Bougrain-Dubourg, une époque où la souffrance animale commençait à être dénoncée, notamment par ces deux voix, des personnes que vous connaissez très bien, vous avez partagé une partie de votre vie avec Brigitte Bardot, et puis donc Jean-Paul Stégère, qui à l'époque était donc le président du club des jeunes amis des animaux, que vous aviez contacté vous-même tout jeune, tout gamin.
Mais oui, j'avais vu un article de lui dans Spirou, et je crois qu'il avait libéré des écureuils sur les quais de la Mégisserie. Et j'avais trouvé ça génial. Et moi, j'étais dans mon lycée à La Rochelle. Et il m'a répondu quand je lui ai dit. Ah, donc, j'ai créé un club des jeunes amis des animaux à La Rochelle. Et on est devenus, on a vraiment les plus grands amis du monde jusqu'à son dernier souffle. Il n'est plus avec nous, malheureusement. Mais Jean-Paul était un personnage admirable, lui aussi, à favoriser les vocations. Et on avait la naïveté de croire, l'un et l'autre, que notre génération arriverait à secouer les consciences. Et qu'en fait, avant nous, il y avait eu les Trente Glorieuses, on était un peu dedans, et c'était normal, le lendemain de la guerre, on avait d'autres préoccupations que la condition animale, mais notre génération avait et allait comprendre les choses, et par conséquent, la violence allait reculer à l'égard de l'animal. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il faudra encore une ou deux générations au moins avant qu'on arrive à avoir des relations à peu près cohérentes, on va dire, avec le vivant qui nous entoure.
Et aujourd'hui, il y a quand même des engagements, des voix qui s'élèvent, hein, comme alors Sophie Marceau, oui, qui était aussi à vos côtés, mais oui, L214 avec d'autres méthodes, c'est-à-dire les dénonciations continues, prises à bras-le-corps par une jeune génération.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de constater qu'en fait, si on est resté indifférent à la souffrance animale, c'est qu'on s'est employé à laisser le couvercle sur la marmite de souffrance. On ne voulait pas voir. Moi, j'ai pas loin de 40 ans de télévision derrière moi. Eh bien, je peux vous assurer qu'il était plus facile de faire un reportage dans une centrale nucléaire, ce que j'ai fait, que dans un abattoir. On ne rentre pas dans ces lieux qui sont des lieux d'interdit où s'expose, où s'affiche la souffrance, aussi bien l'abattoir que les transports, que certains élevages industriels. L214 a eu le mérite, par des vidéos clandestines, de montrer cette réalité. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a rayonné dans les consciences et on ne peut plus rester indifférent. C'est ce qui a, à mon avis, fait bouger le curseur. La deuxième chose, c'est que cette question fondamentale de nos rapports à l'animal a échappé à ce qu'on attende sur ce chapitre, comme Bardot, moi et d'autres. Des philosophes se sont emparés de cette situation. Elisabeth Banater, qui est une amie, s'est clairement prononcée, et bien d'autres encore, François-Olivier Gisbert, que sais-je encore.
Jean-Claude Amezen,
évidemment, Boris Cyrulnik, avec des gens qui tous se sont préoccupés de la condition humaine, et qui prouvent, comme le disait Lamartine, qu'on n'a pas deux cœurs, l'un pour l'animal, l'autre pour l'homme, mais qu'on a un cœur ou on n'en a pas.
Donc il y a cette prise de conscience écologique réelle, comme on le voit d'ailleurs depuis la rentrée 2018, mais des reculades politiques qui ont de quoi inquiéter aussi, comme à propos de la loi agriculture-alimentation. Un raté ?
Je suis mais sidéré, choqué, déçu, peiné. En plus, je les connais, tous ces parlementaires, Barbara Pompili, Loïc Dombreval, etc. Il faut savoir que tous les amendements portant sur le bien-être animal, qui consistaient à interdire, finalement à s'aligner sur ce qu'on fait bien en Europe, interdire la castration des porcelets sans anesthésie, à arrêter le broyage des poussins ou l'étouffement dans des sacs plastiques.
L'élevage des poules en cage.
L'élevage des poules en cage, mettre des caméras dans les abattoirs, que sais-je encore. Tout ça a été retoqué, et le pire, c'est que les parlementaires, 85 d'entre eux, ont trouvé le moyen, il y a quelques jours, dans le journal de dimanche, de faire une tribune pour expliquer que c'est vrai, les Français, 7 Français sur 10, trouvent que les députés, les élus, ne s'occupent pas assez de la condition animale, mais que la politique, c'est pas si simple, on avance pas à pas, et qu'il faut une majorité pour voter les lois. Mais attendez, je croyais qu'il y avait une majorité dans ce pays. C'est vraiment doublement choquant, choquant qu'il ne l'ait pas voté, parce qu'il y avait une majorité pour le voter, et choquant qu'il se satisfasse de cette médiocrité. Je crois qu'ils sont en décalage total avec la réalité de la société civile qui, elle, avance. On le voit, ne serait-ce que les œufs issus de poules en batterie, qui sont tout simplement boycottés, on ne les achète plus, de sorte que les grandes enseignes, comme Carrefour, bien d'autres, décident de ne plus les vendre.
Donc ce monde politique est coupé des réalités, sourd aux voix qui s'élèvent de la société civile, et donc cornaqué aussi par des lobbies puissants. On va le comprendre dans cet extrait de l'émission Secret d'Info, diffusée le 1er septembre 2018 sur France Inter, un reportage de Laetitia Chérel. Et donc à son micro, elle a pu interviewer Sylvain Dibiane de l'association L214 et Loïc Dombreval, député La République En Marche et président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale.
Sur le bien-être animal, nous avons dénombré une cinquantaine de députés du groupe En Marche qui n'ont soit pas défendu leurs amendements ou les ont retirés en séance avant même qu'ils soient votés. Pourtant, c'était des députés qui étaient sensibles à la condition animale et aujourd'hui on est en droit de s'interroger pourquoi est-ce qu'ils ont renoncé.
Un autre député En Marche, Loïc Dombreval, est encore lui plus explicite. Son cas est emblématique parce qu'il est le président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale et il est donc très investi sur le sujet. Il avait déposé une dizaine d'amendements, dont un pour rendre les caméras obligatoires dans les abattoirs, mais il ne les a même pas soutenus en commission des affaires économiques et il nous explique pourquoi.
De toute façon, c'était peine perdue. C'était peine perdue.
Pourquoi ?
Mais parce que j'ai eu toute une série de discussions préalablement à la commission des affaires économiques et où je me suis rendu compte qu'il était inutile d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'avais un veto strict, définitif, sur un certain nombre d'amendements que je voulais porter.
Quand vous parlez d'un veto, c'est un veto de qui ? Vous dites « j'ai eu un veto ».
Mais veto du gouvernement, veto du cabinet du ministre, veto du rapporteur et de la responsable de texte.
Vous voulez dire que c'est le ministre qui vous a appelé pour vous dire « non, ça passera pas » ?
Mais c'est comme ça, toujours comme ça que ça se passe. Il y a une négociation entre le ministre, les députés et les rapporteurs. C'est une méthode tout à fait classique et de tout temps, ça a toujours été comme ça.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alain Bougrain-Dubourg, propos très fort mais très éclairant aussi. Et donc je vous laisser réagir et tout cela pose aussi la question de qu'est-ce qui manque aux ONG pour peser dans ce tableau là où d'autres pèsent visiblement plus fortement.
D'abord, c'est effrayant les propos de Loïc Dombreval, qui est par ailleurs vétérinaire et qui est quelqu'un d'incontestablement motivé. Mais on a eu un échange un peu vif il n'y a pas longtemps, et il me dit « mais Alain, moi j'ai parfois aussi envie de baisser les bras, tellement c'est difficile ». Mais alors, où elle est la démocratie, si on est guidé par un parti ? Je croyais qu'il pouvait y avoir un peu d'autonomie, qu'il pouvait y avoir des progressistes, qu'il pouvait y avoir... Donc voilà, moi je crois que tous ces élus vont être obligés de prendre en compte la manière dont la société bouge. Par exemple, le Conseil économique, social et environnemental auquel j'appartiens va s'emparer d'une saisine sur la condition animale. C'est pas un hasard. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche sociétale sur ce thème. Vous prenez les véganes. On va dire, sont les 20-30 ans, globalement. C'est pas les enfants de la SPA qui ont été habitués à nettoyer les box des chiens à adopter. C'est vraiment des gens qui simplement veulent avoir un autre rapport au vivant. Alors moi, je ne les suis pas pour certains d'entre eux quand ils sont extrêmes, mais je trouve la démarche hautement respectable et elle nous parle, elle nous dit quelque chose de la société. Il faut que les élus l'entendent.
Est-ce que vous avez le sentiment que justement ce Conseil économique, social et environnemental a les moyens de peser sur les décisions prises en haut lieu ?
De plus en plus, parce qu'il représente la société civile. C'est une forme de Grenelle, on va dire. Il y a à la fois le patronat, les syndicats, les ONG, etc. Et on travaille très lourdement. Et voyez-vous, moi j'avais, il y a 5-6 ans, je crois, déposé une saisine sur le statut de l'animal dans le code civil. Et j'avais fait venir des gens qui avaient eu la gentillesse de m'accompagner, comme Boris Cyrulnik, Jean-Claude Amezen et d'autres, des grands cerveaux, des gens admirables, des humanistes. Eh bien, j'ai été retoqué. Ils n'ont pas voulu à l'époque. Et en vérité, pourquoi c'est passé dans le code civil? C'est parce qu'il y a des intellectuels qui sont prononcés publiquement et on a trouvé une fenêtre parlementaire à pas d'heure. Et voilà, on a dit comme ça, on va régler le problème. Et l'animal est passé dans le code civil.
Désormais doué de sensibilité, c'est
voilà,
ça.
Là, on
et non
a
plus
reconnu,
un bien meuble.
Voilà, la sensibilité de l'animal. Mais Aurélie, attention, ça n'est que l'animal domestique ou sauvage tenu en cage. Pas l'animal sauvage. C'est-à-dire que un chien serait sensible à la souffrance et un renard ne le serait pas. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. C'est surréaliste. Donc, il y a encore du travail à faire.
Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la chasse, justement, sujet de préoccupation et qui a rythmé aussi cette rentrée 2018. 1 million de licenciés, on ne parle pas là de la chasse à cours qui en plus pose d'autres questions en sus. Réduction du prix du permis de chasse national de 400 à 200 euros, une souplesse dans la gestion des espèces, création d'une police rurale au sein de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec des fonctions même de protection de la biodiversité, de politique de l'eau, des pesticides, de garde-pêche et de garde-chasse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là ?
Alors, il y a une affaire un peu surprenante. C'est que le château, l'Élysée, a tout simplement décidé de faire des cadeaux aux chasseurs et d'engager ensuite une réforme de la chasse. Inutile de vous dire que quand les chasseurs ont toutes eu par avance, il est difficile de négocier sur des avancées.
Parce que c'est 1 million d'électeurs potentiels.
Oui, enfin, je crois que le président de la République a la naïveté de croire que la ruralité, c'est la chasse. La ruralité, aujourd'hui, les néo-ruraux sont des gens qui abandonnent les villes pour vivre mieux et moins cher, le plus souvent, et qui, en vérité, n'ont pas comme obsession de décrocher un fusil pour aller tuer tout ce qui se passe. Mais ce qu'il y a de navrant dans ces cadeaux qui ont été faits, par exemple, je le prends dans le désordre, il y a tant de choses à dire, la réhabilitation des chasses présidentielles. Mais vous croyez que c'est quand même une démarche d'avenir ? Alors en plus, pour la petite histoire, Aurélie, il faut quand même savoir que l'idée retenue, ça va être en 2019 de faire venir nos homologues la présidence italienne pour cette chasse présidentielle à Chambord, en hommage aux 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Sauf que Léonard de Vinci, c'était un végétarien. Il a écrit des pages admirables sur le respect de l'animal, disant notamment de mémoire, enfin à la louche, que ce qui est considéré aujourd'hui comme un crime à l'égard de l'homme le sera un jour à l'égard de l'animal. Il avait donc cette sensibilité. Et c'est en hommage à Léonard de Vinci qu'on va faire une chasse présidentielle. Mais enfin, que font les conseillers ? Mais plus gravement, vous avez actuellement 64 espèces d'oiseaux chassables en France. La moyenne, pour information quand même, dans le reste de l'Europe, c'est 24 espèces en moyenne. Donc 3 fois plus pratiquement en France. Mais surtout sur les 64 espèces, vous en avez une vingtaine qui sont sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. C'est-à-dire qu'elles sont à l'agonie. On chasse par exemple en France la tourterelle des bois que je connais bien malheureusement pendant près de 20 ans. La LPO a été dans le Médoc pour tenter de faire respecter le droit. On tuait 30 000 tourterelles chaque année à partir du 1er mai, alors que la chasse était fermée. Quand même surréaliste.
Et donc en toute illégalité, sur juste le prétexte de la tradition.
La tradition, voilà. Et puis il y a un préfet admirable, Jacques Giraud, qui est arrivé, qui a remis de l'ordre dans tout ça. C'était réglé en 3 ans. Mais après 20 ans de tolérance. Aujourd'hui, la tourterelle des bois, elle a perdu 84% de ses populations. L'Europe a demandé, il y a quelques mois, à la France et aux autres pays européens un moratoire, c'est-à-dire on arrête de chasser la toile. La France a refusé. Non mais où on va là ?
Et comment,
c'est honteux.
Comment vous expliquez ça ?
lobbying chasse. Je crois que le respect de la vie, c'est secondaire par rapport aux petits intérêts particuliers. C'est là où c'est vraiment navrant quand les chasseurs se présentent comme les premiers écologistes, voilà, qui commencent par arrêter de tirer les espèces à l'agonie.
Je vous propose d'écouter ce document pour bien prendre aussi la mesure de ce monde où l'engagement et la passion côtoient aussi la violence extrême. Et il a fallu s'y habituer, on imagine, hein, Alain Bougrain-Dubourg. Écoutez ce reportage qui a été diffusé le 4 septembre 2014 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Une opération commando au cœur des Landes. 7h du matin, ces militants de la Ligue de protection des oiseaux volent au secours des ortolans. Un migrateur protégé, mais toujours capturé dans ses cages.
On va lui donner la liberté à se faire. Hop. Ce sont des oiseaux protégés dont, en plus, les populations sont en train de s'effondrer.
Non, mais pas un chemin. Allez. Ben ouais, mais ça vous sert à quoi? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles.
Ils sont en train de s'effondrer.
Mais non,
les populations d'ortolans.
Ce n'est pas vrai.
Vous attendez qu'il n'y en ait plus.
Car l'ortolan alimente un trafic juteux. Jusqu'à 150 euros pièce pour cet oiseau, traditionnellement dégusté avec un torchon sur la tête. Un commerce illégal, mais selon ces écologistes, les autorités ferment les yeux.
Il y a une tolérance qui est admise par la préfecture, par les ministères, par le ministère de l'Intérieur. Et voilà, on laisse faire.
Pourtant, les gendarmes ne sont pas loin, mais ne constatent pas l'infraction.
Je ne fais pas de commentaire.
C'est une espèce protégée.
Immédiatement, le ton monte.
Comment on a fait l'étude ?
Ça représente la culture, l'identité. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Et ce ne sont pas des gens qui viennent de la ville, du milieu urbain, qui vont nous apprendre à venir vivre ici en milieu rural quand même.
Une réaction.
Je suis heureux que la page soit tournée, pour tout vous dire, parce que ça fait parfois rigoler l'homme en slip à la pelle et tout le reste, mais c'est quand même très violent. Et puis c'est effrayant, parce que il s'agit d'une espèce... Ma maman était landaise. J'ai grandi dans ce pays que j'aime beaucoup, dans ce département, donc je peux entendre les traditions, les habitudes, mais il arrive un moment où on a un peu de maturité, et puis ça n'est plus de la tradition, c'est du business, c'est dit dans le petit reportage, où on voyait que ça pouvait se vendre 100 à 150 euros pièce, un petit oiseau. Et puis enfin, c'est la tolérance du ministère, du préfet, on est dans un état de droit. Et on autorise des choses pareilles. Alors moi, ça me dépasse.
Le monde politique vous a toujours déçu ?
Non, il y a des gens remarquables. Mon papa était député, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais voulu l'être. Je sais pas si j'aurais pu l'être.
Mais vous connaissez les codes, en tout cas.
Oui, oui, oui. On m'a proposé plusieurs fois d'être député européen. J'aurais peut-être pu, mais je trouve qu'on peut faire de la politique en étant dans la société civile.
Vous aviez été conseiller quand même pour la protection des animaux auprès du ministre Pierre Ménury.
Oui.
C'est dans les années fin 70.
Oh oui, un truc comme ça. Et une de mes fiertés, vous voyez, à l'époque, j'avais vu sur les marchés, on suspendait les volailles qui étaient ligotées par des petits câbles en grappes. On les suspendait à des balances romaines pour les peser. Même chose avec les chevreaux. Et j'ai obtenu qu'on puisse mettre ces animaux dans des casiers en plastique et qu'on ne leur impose pas cette condition effrayante depuis 4h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi.
Est-ce que le maître mot dans cet engagement, donc qui est le vôtre pour les animaux, pour l'environnement, pour la planète, c'est pas l'économie ? Alors l'économie qui peut être un adversaire terrible, mais qui peut aussi devenir un allié. Alors un adversaire, parce que vous disiez pour les ortolans notamment, il y avait un véritable marché. Oui. Il y a un marché pour les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants, oui, etc. Mais inversement, la chasse aux phoques, par exemple, à partir du moment où vous avez réussi dans vos actions, avec Brigitte Bardot notamment, à faire en sorte que ça se réduise et, oui, qu'il y ait moins d'acheteurs, là, le maître mot économie n'était plus un danger.
C'est très discuté comme approche, mais l'idée est de se dire, au fond, combien vaut la nature. Certains refusent cette approche, considérant que la nature n'a pas de prix, un peu comme l'homme. Bah, je suis désolé, mais l'homme, il a un prix. Si vous avez un accident d'avion, vous n'avez même pas le même prix pour ceux qui vont mourir, bon, en fonction des situations de chacun. Et il y a des économistes qui ont évalué les services rendus par la nature. Alors, quels sont-ils ? C'est les ressources halieutiques. Par exemple, le poisson, au départ, il est gratuit. Ça coûte de l'argent d'aller le chercher, mais les ressources halieutiques, la forêt, tout ce qu'on peut trouver comme potentialité thérapeutique, etc. Ça représente 40% de l'économie mondiale. Sauf que ces services sont en déclin de 60% à cause de la désertification et bien d'autres choses encore. Donc là, c'est intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans une économie de marché, et bien ça intègre le vivant dans notre réflexion, et je pense que ça peut nous amener à être davantage attentifs.
Il est temps d'écouter votre choix musical, Alain Beaugrain-Dubourg. Vous nous proposez une chanson de Claude Nougaro.
Ne dites pas que vous l'avez retrouvée.
Oui.
Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne.
Vous connaissez par cœur le cri de Tarzan. Et alors, juste pour bien comprendre, pourquoi ce choix?
Oh, parce que j'aimais beaucoup Claude et je crois qu'il m'aimait bien. Et un jour, je vais chez lui à Paris, dans les Halles, il me dit « Alain, j'ai écrit un texte, je crois que ça va te plaire. » Et il aimait beaucoup les animaux et la nature. Il me dit « Tu veux que je te le dise ?» Je dis « Mais mon Claude, bien sûr, je veux. » Et voilà, donc il me l'a dit pour la première fois. Et j'ai jamais oublié, je la connais, je crois, par cœur, cette chanson.
Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne. Vieux Tarzan groggy, en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri. J'ai perdu ma jambe. Ils m'ont tout tué, par tonne d'ivoire. Éléphant sacré, massacré mes rares. Et tous mes gorilles les ont fusillés. La famille a pas le blindé. Mes hippopotames, mes crocos géants, des sacs pour les dames qui ont de l'argent.
C'était Claude Nougaro, votre choix musical, Alain Beaugrain-Dubourg, Le cri de Tarzan. Et on poursuit notre émission spéciale, La Voix libre, qui vous est consacrée aujourd'hui sur France Culture. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes président de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, président du COS, le Conseil d'orientation stratégique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, une vie pour et avec les animaux, Alain Beaugrain-Dubourg, et qui passe par la défense, la préservation et la transmission. Et vers 16h40, je rappelle que l'invité surprise nous rejoindra pour l'heure. On peut dire que certains temps sont peut-être évolus ou en passe d'être évolus face à la demande plus large du public de faire reconnaître cette dignité animale. Écoutez ce reportage diffusé le 25 novembre 2017 sur France 2.
Il est 18h hier quand elle s'échappe de sa cage. Mévi, une tigresse de 200 kilos. Le quartier est aussitôt bouclé, impossible de la faire revenir. La décision est prise, elle doit être abattue. Pour le propriétaire de ce cirque, c'est incompréhensible.
La porte est ouverte. Je ne l'explique pas. Ça fait 40 ans que je suis à Paris. J'ai 50 ans. J'ai jamais eu l'ombre d'un problème avec les tigres.
Oui, mes filles. Oui, mes filles.
Tuer sa tigresse, c'était la seule solution. Il n'avait pas le temps de l'anesthésier.
Le temps d'appeler le vétérinaire, le temps de venir avec la seringue. Si le tigre fait 150 kilos ou 200 kilos, la seringue, il faut que ça soit en fonction de son poids. Ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure d'anesthésie et le fauve, dans l'affolement, il risque de faire du dégât, de tuer des personnes.
L'accident irrite de nouveau les associations animalistes qui en appellent au pouvoir public. Pour elles, les animaux n'ont pas leur place dans un cirque.
Donc nous, on n'est pas tant à condamner l'acte de supprimer cet animal, même si on le dénonce bien évidemment. On est surtout à dire qu'il faut regarder en amont ce qui se passe et on n'a pas le droit d'exploiter des animaux sauvages de cette manière.
Oui, en France, près de 65 communes ont interdit les cirques à animaux sauvages. comme l'ont déjà fait 13 pays en Europe. La tendance est aujourd'hui à des cirques sans animaux, avec par exemple plus d'acrobates, tout aussi spectaculaires.
Alain Bougrain-Dubourg, donc du coup, est-ce qu'on est là à un tournant? Certains temps sont révolus, comme le temps des cirques avec les animaux sauvages. J'en profite quand même pour rappeler que le dernier rapport de WWF, hein, Planète Vivante, pointe le fait qu'en 40 ans, on a perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre.
Oui, c'est effrayant, mais je dois dire que l'affaire des animaux sauvages dans les cirques est inacceptable que ça perdure de cette manière, puisqu'on vient de parler du tigre. Je voudrais rappeler que, moi j'ai eu le bonheur d'aller les filmer en Inde, un tigre dans la nature, il a besoin de 50 km² pour vivre, même s'il a de quoi à manger, des gazelles, de l'alimentation, pour marquer son territoire. Et il doit vivre solitaire. Il ne retrouve les siens que pour les périodes de reproduction. On impose à ces tigres 9 mètres carrés de sûr en promiscuité avec d'autres tigres et des lions, etc. Alors ce que je voudrais dire, c'est que les circassiens, ils ont élevé ces bébés tigres, probablement avec amour, au biberon, etc. Mais même si le tigre est né en 10e génération de captivité, il restera un tigre. J'ai vu dans l'île de Ré, qui malheureusement j'aurais souhaité que l'île de Ré soit la première île sans, ça va être l'accord je pense du reste, sans animaux sauvages dans les cirques. On voit par des cagnasses insupportables dans les voitures cages en ferraille des animaux qui suffoquent de chaleur, sans parler donc des conditions exiguës de captivité.
Alors, on peut risquer sa vie, Alain Bougrain-Dubourg, pour les animaux. Quand on lit vos récits et vos mémoires notamment, on a le sentiment que vous avez même pensé parfois à vous immoler par le feu, c'est ça, pour interpeller.
Je vois que vous avez... Oui, c'était à l'époque des tourterelles dans le Médoc, où effectivement 20 ans c'est long. 20 ans tous les ans le 1er mai, où j'étais accompagné par Brigitte Bardot une année, Sophie Marceau une autre, Hubert Rive, Théodore Monod et bien d'autres, et ça n'avançait pas. Et je me suis dit un jour, je le dis très humblement, je suis désolé, mais ça peut traverser l'esprit de chacun, du reste. Je me suis dit, mais au fond, c'était l'époque où il y avait des gens qui s'immolaient pour des grandes causes. Si je me foutais le feu, ah, je suis sûr que ça s'arrête. Et pourquoi pas? Et je me suis vraiment posé la question, et je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, peut-être parce qu'un jour pousse l'autre et que j'ai eu des petites lueurs d'espoir au fond du tunnel.
Et peut-être parce que vous avez aussi l'occasion de rencontrer des gens sur votre route, connus ou anonymes, mais qui s'engagent et puis qui donnent peut-être cette force d'avancer en collectif. Je vous propose justement de faire entrer dans notre émission l'invité surprise. Il est temps de partager ce moment avec vous, mais vous allez d'abord écouter sa voix. C'était le 10 avril 2014 dans la Marche des Sciences sur France Culture.
J'ai découvert une sorte de besoin de nature quand j'ai fait mes études dans une ville qui n'est pourtant pas bien grande, c'est Charleville-Mézières. Là, j'ai vraiment découvert que la nature me manquait. Tant que j'étais immergé dedans, je ne me rendais pas compte. Et c'est quand j'en étais privé que j'ai ressenti ce besoin extraordinaire de forêt, de silence, de solitude en même temps et de la nature sauvage. Quand je suis devenu instituteur, j'ai choisi le plus petit village qui s'appelle La Moncelle, dans les Ardennes. Oui. Et j'ai commencé à baguer les oiseaux. Ça a été mon entrée dans le monde de l'écologie, si on peut dire. Enfin, oui. En tout cas, le mot n'existait pas à l'époque, de la protection de la nature.
Et notre invité surprise est Pierre Deshommes. Bonjour Pierre Deshommes.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes avec nous par téléphone parce que la SNCF ne vous a pas permis de nous rejoindre physiquement. Voilà, vous avez été arrêté en pleine voie et vous avez dû rebrousser chemin. Mais vous êtes avec nous pour partager ce moment depuis les Ardennes, hein, où vous vivez. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas votre aventure, je précise que vous êtes auteur, rédacteur du journal La Hulotte des Ardennes, le journal le plus lu dans les terriers. Humour, rigueur et simplicité au service de la beauté de la nature à faire découvrir. Alors, petite question, est-ce que vous vous connaissiez avant tous les deux ?
On se connaît depuis des années, mon Pierre, quel bonheur de t'entendre. Écoute, je dis publiquement à ce micro l'admiration que je te porte. Pierre, il a jamais transigé de la vie. Tu m'arrêteras, Pierre, si je me trompe, mais je me souviens qu'à une époque, le groupe Match voulait racheter le courrier de la Hulotte. Et t'as pas voulu, t'as continué à faire tes dessins admirables, plein d'humour. de connaissances naturalistes exceptionnelles. Mais attends, je te laisse parler parce que c'est à toi de t'exprimer.
Pierre Déhomme, vous êtes un ovni. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous avez créé donc la Hulotte il y a 46 ans, c'est ça? Allez, racontez-nous le déclic et les rencontres qui vous ont amené à cette aventure incroyable.
Eh bien, au départ, on était une petite équipe d'amis. On venait de prendre conscience des graves problèmes qui pesaient sur la nature, après avoir lu, par exemple, le livre de Jean d'Ors, Avant que nature meure, ou bien le jugement dernier de Taylor. On était très, très motivés, très angoissés, d'ailleurs, parce que tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui exposés sur la place publique étaient déjà là, hein, ils étaient déjà présents, y compris le réchauffement climatique. Et on savait pas du tout par quel bout prendre les choses. On s'est dit, on va s'adresser aux enfants et leur expliquer que le monde qui les entoure, la nature, est un monde extraordinairement riche et qu'il faut à tout prix le préserver, à tout prix le défendre. On était aussi dans une époque où c'était la fin des Trente Glorieuses. Il y avait énormément d'argent pour faire des défrichements, faire des assèchements de marais, faire des enrésinements, des remembrements, etc. Et on voyait les paysages être détruits d'année en année. C'était tout à fait effrayant. Ça s'est un peu calmé par la suite à cause du manque d'argent. Mais là, on était sur une pente très raide. Donc, on s'est dit, on va faire des clubs, un peu comme les Jeunes Amis des Animaux, mais à l'échelon ardennais. Et puis, on va faire un bulletin de liaison pour ces clubs. Et c'est comme ça qu'est née la Hulotte, en fait. C'est pas vraiment un journal. C'était un bulletin de liaison. Et c'était en 1972.
Et puis finalement, les clubs, eux, connaître et protéger la nature, c'était leur nom, vont péricliter, alors que la Hulotte, bulletin de liaison, continue sa vie. Aujourd'hui, donc, il faut préciser que c'est à peu près 2 numéros par an, parce qu'il vous faut un temps infini, vous le faites tout seul, les dessins, les récits, enfin, tout ce que vous offrez dans ce journal. Vous avez 150 000 abonnés environ, dans près de 70 pays, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un gros travail, effectivement. Je l'effectue pas tout à fait tout seul parce que j'ai une documentaliste qui m'aide beaucoup, mais je suis tout seul pour la réalisation des dessins et des textes.
Il faut préciser que vous travaillez bien sûr avec les derniers rapports scientifiques, les études de chercheurs pour être le plus précis possible. Quel est votre public concrètement, Pierre Déhomme?
C'est un public qui commence à 8 ans. On a des enfants qui nous écrivent des lettres adorables, qui ont 8 ans. Et notre plus vieil abonné avait 107 ans. C'est très difficile de savoir le pourcentage des enfants et des adultes, parce que, bon, comme il n'y a pas de publicité dans les lots, il n'y a pas d'enquête de lectorat. Mais par le courrier, on voit qu'il y a vraiment tous les âges sont là.
Et alors, il y a quelque chose qui vous rassemble aussi, vous, Pierre Déhomme, et Alain Bougrain-Dubourg, c'est la Hulotte, c'est la chouette. Écoutez cette anecdote autour de la chouette racontée par Jean-Paul Stégère. C'était sur France 3 Picardie, le 27 décembre 1975.
Cette anecdote, disons, remonte à 1964. Des jeunes qui étaient en vacances dans le département du Lot ont découvert une chouette clouée vivante par les deux ailes sur la porte d'une grange. C'est une question de superstition, d'idées fausses, etc., qui fait que des quantités d'animaux sauvages sont persécutés inutilement. Et ces jeunes ont donc décloué cette chouette, l'ont délivrée. Elle avait les deux ailes broyées, était dans un état absolument épouvantable. Ils ont voulu la tuer pour l'empêcher de souffrir et finalement ils n'en ont pas eu le courage. Ils ont réussi à la sauver, elle est devenue complètement apprivoisée. Elle est devenue la mascotte de notre club et nous l'avons plusieurs fois présentée à la télévision pour essayer de réhabiliter tous ces mal-aimés de la faune française. Et partant de là, après avoir vu cette chouette, tout le monde nous a appelé le club de la chouette et c'est comme ça que cet oiseau est devenu l'emblème de l'action des jeunes pour la nature.
Alain Bougrain-Dubourg.
C'est émouvant. Vous savez ce qu'on avait fait à l'époque, Pierre doit s'en rappeler, on avait fait une exposition des chouettes par milliers et on avait demandé... Tu te rappelles, Pierre?
Oui,
on
a... fait, bien sûr.
Mais il y avait des gens extraordinaires. Maurice Chevalier, Bourville, Jean Gabin, enfin tous les... Voilà, les
Georges Brassens, des politiques qui... aussi, VGE,
oui,
Mitterrand.
Voilà, et je me souviens, du reste, j'avais demandé au président Giscard d'Estaing, il m'avait dit, non, je ne souhaite pas dessiner une chouette. Bon, je lui ai dit, mais Mitterrand l'a fait. Ah bah, donnez-moi un papier, je vais le faire. Bon. Et on avait eu, voilà. Et on avait exposé ces tableaux. Et on a participé à la réhabilitation de cet animal mal aimé, on va dire, incontestablement.
Pierre Déhomme, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui encore? Et quels sont peut-être vos combats d'ailleurs?
J'ai vraiment envie de faire connaître aux enfants, puisque je m'adresse prioritairement à eux, j'ai envie de leur faire connaître ce choc que j'ai eu moi assez tardivement, d'ailleurs vers 18 ans, quand j'ai découvert l'extraordinaire complexité du monde naturel. Je suis un enfant de la campagne, j'avais toujours pensé que la nature c'est quelque chose d'assez ennuyeux, qu'une forêt, bon, c'est jamais qu'une collection d'arbres, c'est un grand intérêt. Et c'est tout le contraire, bien sûr. C'est une horlogerie extraordinaire, très fine, où toutes les espèces dépendent les unes des autres. Et j'ai découvert cette richesse en lisant les livres de Paul Géroudet, La vie des oiseaux, qui sont des livres très complets, admirablement écrits, qui décrivent toutes les espèces d'oiseaux, une par une, qui vivent en Europe. Ça m'avait complètement scotché quand j'avais lu ça. Et c'est ce que j'essaye de montrer, c'est pourquoi je traite non pas des sujets tels que la forêt ou les marais ou la montagne, mais je prends une espèce et je vais raconter sa vie de A à Z.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? C'est vrai que cette année 2018 a été riche sur tous les plans, et notamment en mars 2018, des études du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle ont alerté sur la chute des populations d'oiseaux en France. Un tiers en 15 ans, et 80% des invertébrés depuis le début des années 90 ont disparu. Alors notamment, c'était une étude en Allemagne. Vous, est-ce que concrètement, sur le terrain, vous le sentez, vous le percevez ? Ça fait partie des plus grosses inquiétudes ?
Tout est inquiétant. C'est une situation... Je vous ai dit qu'à 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nature, on était follement inquiets. Mais quand on compare la situation de l'époque avec celle d'aujourd'hui, elle s'est aggravée d'une façon épouvantable. Le fait d'imaginer que les mers vont se vider de leurs poissons à échéance de 30 années, que les insectes sont en train de disparaître d'une façon incroyable, presque inconcevable. Bon, bien sûr, il y a aussi le réchauffement, il y a l'acidification des océans, il y a les pesticides. Les pesticides, on les utilise depuis 50 ans. C'est rien dans l'histoire du monde, c'est une étincelle.
Si on vous suit tous les deux, on se rend compte que ce travail est fait aussi à destination des enfants. On peut préciser à Alain Beaugrain-Dubourg que la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, sensibilise 100 000 enfants à la nature chaque année.
Oui, à travers des sorties nature, des expositions, des fabrications de nichoirs, d'hôtels à insectes, que sais-je encore. Et il y a un vrai problème de relève pour prendre en charge les jeunes qui sont curieux de nature, mais on n'a pas les structures pour les accueillir. Et je dois dire que là, c'est vraiment un problème. Il faut qu'on s'y attelle davantage.
En sachant que ce monde est de plus en plus urbanisé, de plus en plus citadin, de plus en plus bétonisé, et que ces jeunes, effectivement, n'ont pas forcément ce contact avec la nature, ce qui vous a finalement redonné aussi cette envie et d'être un passeur.
Oui et non, ça peut se corriger. Moi, j'ai vu les enfants les plus passionnés par la nature être des enfants citadins qui sont sevrés de nature, mais qui vont devenir des naturalistes hors pair. Et au contraire, des enfants de la campagne qui croient tout savoir sur ce qui les entoure et qui en réalité savent pas forcément grand-chose. Parce qu'il ne suffit pas d'être à la campagne pour bien connaître le milieu qui vous entoure. Non, je ne ressens pas ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un nombre de plus en plus grand de jeunes qui se passionnent pour la nature et qui sont extrêmement savants, qui sont extrêmement connaisseurs.
Avec des formations aussi universitaires qu'on offre aujourd'hui ou des masters orientés sur même le droit de l'environnement. De votre côté, Pierre Desommes, quelle relève avez-vous mis en place pour la Hulotte ?
Écoutez, il n'y en a pas pour l'instant. Ça me préoccupe pas trop, je fais mon travail et puis le jour où je ferai plus, d'autres le feront, hein, c'est pas un souci.
L'internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est effectivement nouvelle technologie prend le pas dans le monde des jeunes, et vous réussissez à avoir ce public qui attend patiemment deux numéros par an qui arrivent par la poste.
Oui, des bonnes années, hein. Cette année, il n'y en a eu qu'un seul.
Est-ce que vous diriez, l'un et l'autre, que finalement, aujourd'hui, ces problèmes écologiques, on le sent, peuvent être gérés au niveau local, régional, mais ils ne sont pas forcément gérables au niveau même d'un État, mais sont à envisager à l'échelle globale. Par quoi est-ce que ça doit passer aussi, au-delà des actions que vous menez ? Est-ce que le rôle de la justice, du droit de l'environnement, est aussi un fer de lance ? Pierre Desommes.
Je pense que l'exemple que donnait Alain Beaugrain-Dubourg tout à l'heure sur l'extrême lenteur qui a été celle des responsables pour faire appliquer les lois sur les oiseaux migrateurs montre que tant que l'opinion publique ne les pousse pas, et il se passe pas grand chose. Alors évidemment, le fait que maintenant beaucoup de lois devraient être internationales complique encore les difficultés. Mais je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de conscientiser le public, conscientiser les citoyens.
Moi, je crois qu'au fond, quand on fait le bilan, ça n'est pas tant les lois qui nous manquent que leur mise en application. On a un arsenal admirable, y compris européen. Oui. L'Europe nous sauve, hein. Sauve l'animal, oui. Sauve le vivant, sauve l'environnement, nous tire vers le haut. Mais simplement, on n'a pas les moyens de contrôle et de mise en œuvre. Et ça, ça doit être l'urgence de mettre en œuvre toutes les réglementations qui existent. Et puis, une autre remarque, il y a une très jolie phrase de Karen Blixen dans Out of Africa. Elle dit à un moment, je crois que la Terre est ronde pour nous permettre peut-être de ne pas voir trop loin notre chemin. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on doit regarder au-delà de l'horizon. On ne doit plus vivre à court terme. On a un devoir de futur et c'est ce à quoi on s'emploie avec Pierre et d'autres.
Alain Bougrain-Dubourg et Pierre Deshommes, est-ce que vous referiez le même parcours aujourd'hui, celui qui a été le vôtre? Alors, il faut préciser quand même, Alain Bougrain-Dubourg, que votre père n'était pas très friand hein, de vos choix dans la vie. Peut-être que à la fin, il a quand même reconnu que vous aviez choisi une voie qui faisait sens.
Oui, bah, il aurait voulu que je sois vétérinaire, par exemple. Bon, effectivement. Mais pour un papa, on peut comprendre que, on veut sécuriser l'avenir de l'enfant. Et moi, je n'avais pas, c'était très hypothétique comme démarche. Voilà. Il n'y avait pas de métier de protecteur des animaux. Donc, je peux comprendre. Ça a été quand même douloureux, hein, les relations. Je crois aujourd'hui que, comme le disait Pierre, il y a une prise de conscience des jeunes. Simplement, il faut pouvoir les accompagner davantage et nos structures associatives sont pas assez prêtes à cela. Et il faudrait qu'on se développe pour voilà, qu'ils puissent faire davantage de stages, l'éducation à l'environnement dans les écoles, que sais-je encore. Quand il y a eu la grippe aviaire, par exemple, on a suspendu toutes les sorties nature au prétexte que on risquait d'attraper la grippe aviaire en regardant les oiseaux à la jumelle. Bon, enfin, là, on se fout du monde, carrément. Bon, ça nous a pénalisés.
Pierre Deshommes, donc, est-ce que vous referiez la même route aujourd'hui? Et puis, comment peut-être sensibiliser? C'est vrai qu'il y avait, fut un temps, il y avait les classes vertes, quand même.
J'ignore ce que je ferais, mais je ne voulais surtout pas faire de cours de sciences naturelles à Saumon, parce que moi, personnellement, au départ, les sciences naturelles ne m'intéressaient pas beaucoup quand j'étais élève. Je les trouvais assez ennuyeuses. Et j'ai toujours fait très attention à ne pas reproduire des cours pleins de jargon, pleins de croquis abstraits. J'ai voulu mettre la vie, la nature, et montrer aux enfants à quel point c'est la vie de n'importe quelle espèce est un roman passionnant.
Et le prochain numéro, alors, de La Hulotte portera sur quel animal? Vous pouvez nous le dire?
Alors, il ne portera pas sur un animal, il va être consacré aux lierres, cette plante courante que tout le monde connaît et qui finalement est pas si bien connue que ça, et montrer à quel point le lierre, qui a une réputation d'une plante parasite et nuisible, est en fait une plante extrêmement utile, non seulement aux animaux qu'elle nourrit, les insectes, les oiseaux, pour qui elle a une véritable providence, mais même pour les bâtiments, puisque le lierre protège les bâtiments dès l'instant où les murs de ces bâtiments sont bien jointoyés, en bon état. Le lierre devient une protection contre la pluie, contre les excès de chaleur, contre le gel, et même c'est un filtre à particules extraordinairement performant, comme viennent de le démontrer plusieurs études.
Merci Alain Bougrain-Dubourg et merci Pierre Deshommes. Je précise pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur La Hulotte, ce journal incroyable dont le dernier numéro porte sur la coccinelle à 7 points, que nous mettrons sur notre page web le lien vers votre site. Alain Bougrain-Dubourg, je cite deux livres, mais il y en a d'autres bien sûr, à retrouver également sur le site. Il faut continuer de marcher, ce sont vos mémoires, parus aux éditions de La Martinière, et puis Lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, un livre édité aux éditions Les Échappées. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger. Rendez-vous pour cela sur franceculture.fr à la page de Cause à effet. Et samedi prochain, c'est la juriste Valérie Cabanès qui nous rejoindra avec en seconde partie d'émission Philippe Desbrosses, pionnier de l'agriculture biologique. Bon week-end à tous et tout de suite, place à l'actualité et au journal avec l'équipe de la rédaction de France Culture.